Time Foot. Time Foot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Foot sur Beurre FM, votre émission spéciale 100% foot, 100% Cannes 2021 en cette année 2022. Avec moi, ouais, on enchaîne nous tout de suite, on a des consultants qui sont au taquet, qui sont au top et qui attendent de pénétrer sur la pelouse. Achille avec nous ce soir, comment ça va Achille?
Bonsoir, bonsoir, ça va?
Impeccable Achille?
Ah bah, un peu déçu, mais ça va.
Ouais, on y reviendra. Il fait grise mine. Achille, Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula?
Ça va, très bien.
Ouais, tranquille?
Tranquille.
Ouais, tranquillement. Bah écoute, on est avec Boula, on est avec Achille. Viknesh est encore dans le vestiaire, à la traîne. Et puis, bah, Yanis, lui, est toujours taqué. Il est sur le terrain, il a sifflé à la main, il attend juste les joueurs qui rentrent. Le réalisateur de l'émission. Au programme de ce Time Foot de ce soir, les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier le Nigeria, voilà, qui a fait forte impression dans ce premier tour, un sans faute pour les Super Eagles, et bien sûr, vous avez dû le suivre en fin d'après-midi, l'élimination de l'Algérie qui donc sort dès le premier tour. Et oui, parce qu'il y a un « et », l'invité exceptionnel ce soir, Patrick Mboma, qui sera avec nous dans quelques instants. Allez, le premier sujet.
Time Sport. FC Barcelone et Ousmane Dembélé, rupture totale entre les deux camps. L'international français a été écarté par Xavi pour la rencontre de ce soir face à Bilbao en Coupe du Roi et a été également poussé par le club catalan à se chercher une nouvelle équipe dès à présent à quelques jours de la fin du mercato d'hiver. Côté transfert, toujours le français Eliakim Mangala, sans club, s'engage à l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de saison. Âgé de 30 ans, l'ancien de Manchester City va tenter de renforcer le secteur défensif des Verts, dernier de Ligue 1. En tennis, l'Open d'Australie continue bien sûr. La française Alizé Cornet a vaincu l'Espagnole Garbine Muguruza ce jeudi en 2-7, 6-3, 6-3 et accède donc au troisième tour de la compétition. Chez les hommes, Benoît Paire s'est offert Grigor Dimitrov en 4 manches, 6-4, 6-4, 6-7. Et 7-6, le français s'en ira défier Stefanos Tsitsipas samedi pour une place en 8e de finale. Voilà, c'est tout pour ce jeudi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Allez, on est de retour. N'oubliez pas, en tout cas, de réagir sur notre émission au 53 48 3000. Yanis, il est là, il vous attend. Il fera le plaisir de décrocher le téléphone. Allez, on passe à la première.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Quelques affiches alléchantes déjà pour ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il reste encore des matchs qui doivent se jouer. Achille, Boula.
Oui, c'est vrai qu'il y a de belles affiches. Notamment, j'ai hâte de voir ce Nigeria-Égypte, qui risque d'être une rencontre vraiment très explosive. Et après, pour le reste, on va quand même attendre les matchs qui ont commencé il y a 3 minutes, là d'ailleurs, pour avoir l'intégralité de ces affiches de ces huitièmes de finale. Et par la suite, on va voir ce que ça va donner.
Quoi. Ouais, autre affiche de ces huitièmes de finale, Boula, Maroc-Malawi, il est surprenant. L'une des équipes surprises hein, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Cap-Vert, on attend un petit peu plus des Sénégalais. Et enfin, Burkina Faso-Gabon.
Bah écoute, Burkina, je trouve que c'est une belle équipe. Je pense qu'ils sont. On avait eu du mal à les battre en Algérie. Et je trouve que c'est ils font partie des meilleures équipes en ce moment africaines. En parlant du match contre l'Algérie au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai vu des joueurs de qualité en Côte d'Ivoire exceptionnels qui étaient aujourd'hui très très présents. Pour gagner ce match-là, nous on est passé carrément à côté.
On y reviendra à bout là. On voit qu'il est déjà concentré sur ce match. Moi j'ai quand même envie de vous entendre justement sur ces huitièmes de finale. Le Sénégal par exemple qui
finit près
de son groupe, mais peu convaincant, mais solide. On en attend peut-être un petit peu plus, Achille.
Moi je pense qu'il y aura des surprises. Je pense que là il va vraiment avoir des surprises. Comme on voit Sénégal-Cap-Vert. Attention au Sénégal parce que c'est vrai qu'il ils ont marqué que un ou deux buts, si je dis pas de bêtises, dans cette phase de poule. Je pense que le Cap-Vert est l'équipe surprise, qui n'a strictement rien à perdre. Donc tout a y gagné. contrairement au Sénégal qui a cette pression de remporter enfin un titre. Enfin une CAN pour cette grande nation dit du football, mais malheureusement qui n'a pas de titre. Donc c'est extrêmement important. Mais le match, comme le disait bien Boula, Burkina-Gabon, ça va être un match très 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 ouvert parce que les Gabonais ont fait une magnifique troisième match contre le Maroc, un match très ouvert malgré l'absence des deux tauliers, hein, du capitaine et du vice-capitaine, Lemina et Aubameyang. Donc pour le coup, je pense qu'on va avoir des rencontres assez ouvertes et attention surprise, parce que même d'ailleurs, comme tu fais bien de le stipuler, le coach, Maroc-Malawi, attention, c'est pas si ouvert que ça. C'est pas. Alors c'est effectivement le Maroc avec toute son expérience, tout ce qui, c'est les joueurs de qualité, non pas que le Malawi n'en a pas. Mais attention, il va falloir qu'il soit prudent.
Le Malawi a mis en difficulté hein, nos amis sénégalais. D'autres matchs, des huitièmes de finale. Alors je rappelle, hein, donc Burkina Faso, Gabon, ça se jouera le 23 janvier à 17h. Le Nigeria, on attend encore quel sera l'adversaire des Super Eagles. Il y a un Sénégal donc Cap-Vert qui se jouera donc le 25 janvier à 17h également. Guinée équatoriale qui est qualifiée, qui attend son adversaire. La Guinée, la même chose. Cameroun, Comores, voilà, ça sera le 24 janvier. Et puis, bravo aux Comoriens quand même qui ont réalisé la surprise. Ça se déroulera donc le 24 janvier à 20h. Et puis, il y a un certain quand même Côte d'Ivoire, Égypte, le 26 janvier.
C'est Côte d'Ivoire, Égypte. J'ai dit Niger, Égypte.
Ouais. Côte d'Ivoire, Égypte.
Côte d'Ivoire, Égypte. Cette rencontre-là, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est deux équipes, moi personnellement, qui me déçoivent beaucoup. J'attends beaucoup plus, surtout de la part de la Côte d'Ivoire. Alors, à voir s'ils ont vaincu un petit peu le mauvais sort à la suite de la victoire tout à l'heure contre l'Algérie. Mais c'est une équipe qui, pour moi, tâtonne encore. Et je pense qu'ils ont quand même, ils ont l'effectif pour pouvoir aller chercher ces Égyptiens qui. Ben en fait, il n'y a pas grand-chose à retenir, quoi. Ils marquent sur un coup de pied arrêté la dernière rencontre.
Contre le Soudan.
Contre le Soudan, c'est très pauvre dans le jeu. Il y a Mohamed Salah est fantomatique. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette équipe d'Égypte.
Est-ce que Boula, cette équipe d'Égypte est peut-être totalement moins forte?
J'ai un peu suivi la Coupe arabe. J'ai vu un petit peu le trois quarts de l'effectif
égyptien.
Je les ai trouvés justes dans la qualité de jeu, tout ça. Et sur ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y aura pas photo. Ce que j'ai vu cet après-midi sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y aura pas photo.
Ouais, les Ivoiriens passeront face aux.
Ouais, passeront
après l'étape égyptienne.
Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Égypte, c'est une école. C'est la Coupe d'Afrique, ils ont l'habitude de ces compétitions-là.
Ouais.
Psychologiquement, ils vont être présents. Mais quand tu vois, comme dit Achille, dans les qualités de certains joueurs, dans les qualités intrinsèques de la Côte d'Ivoire, il y a des atouts quand même. Et ces joueurs-là, à un moment donné, quand je vois Nicolas Pépé, quand il fait l'enroulé, tu sens que c'est des joueurs, ça demande qu'à exploser.
7 titres pour l'Égypte, hein, faut pas l'oublier.
C'est pour ça que je précise bien que l'Égypte, ils ont l'habitude de la Coupe d'Afrique.
57, 59, 86, 98, 2006, 2008 et 2010 pour les Égyptiens, recordman de cette Coupe d'Afrique des Nations, Achille, devant le Cameroun.
Et pour parler du Sénégal, moi ce que j'aime chez Alou, c'est qu'il a mis un travail en place et je pense que sur les huitièmes, je pense qu'ils vont être là. Je pense que c'est une équipe qui est prêt à. Je pense qu'ils ont psychologiquement, ils sont plus prêts à.
Tu penses qu'ils monteront en puissance.
Ouais, pour moi, je pense qu'après ils ont un grand joueur devant.
Je suis pas forcément de ton avis, Boula, par rapport à ça, parce que tu sais même quand tu vois le Sénégal, tu sens pas une équipe qui est en rodage ou qui est en train de petit à petit de monter en puissance. Moi, je vois au contraire une équipe qui trouve pas de solution en fait. C'est pas normal que le Sénégal joue 3 matchs de compétition, enfin, finit la phase de poule de la CAN avec aussi peu de buts marqués. C'est très faible dans le jeu. Tout repose sur Mané et c'est pas Aliou Cissé nous a habitué à avoir beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de solutions offensives, et c'est faible. Après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont été touchés par le Covid.
Achille, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a des circonstances dans, dans la gestion de cette Coupe d'Afrique. Les joueurs, ils sont arrivés en retard, il y a eu des, le problème du Covid, tout ça. Les entraîneurs et les équipes, ils n'avaient pas carrément leurs leur joueurs à leur disposition à 100%. Je pense qu'on a, sur la deuxième partie, de là dans les huitièmes, je pense qu'on aura, on aura des belles équipes qui seront plus, on verra plus un groupe de qualité et on verra plus des vrais matchs. Et je pense que les joueurs, ils vont attaquer, ils vont être à 100%. Sur les trois premiers matchs, faut pas oublier que ils sont arrivés à trois jours de la Coupe d'Afrique. Ils sont arrivés à trois jours de la Coupe d'Afrique et je trouve ça
scandaleux, faut le dire, c'est qu'on la FIFA n'a pas respecté la Coupe d'Afrique des Nations, faut le dire, c'est pas une honte. Comment ça se fait que des joueurs soient libérés le 3 janvier c'est pas possible. 3 janvier, début de la CAN, le 9 janvier. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin de groupe, on n'en a rien à foutre. C'est quoi? C'est pas possible.
Ah, mais bon, après, quand tu vois heureusement qu'il y a eu l'élection du président du Cameroun, Eto, qui est quelqu'un.
Ah, heureusement d'ailleurs.
Qui est une figure mondiale du football et qui représente le Cameroun et qui le pays où à un moment donné, il est monté au créneau au niveau média. Il a pas été de main morte. Je pense que il a fait ce que les autres présidents comme Ayatou ou tout ça n'ont pas fait, n'ont jamais vraiment défendu.
Priorité au direct, on joue le groupe F ce soir. Donc deux rencontres, hein. Gambie-Tunisie, Mali-Mauritanie. Gambie-Tunisie après 11 minutes de jeu, 0-0. Mali-Mauritanie, 1-0 pour les Maliens, grâce à un but de Massadio Aïdara, le joueur du Racing Club de Lens. Ouais, les Maliens.
Ouais, c'est une belle équipe. D'ailleurs, Ibrahim Koné, le Lukaku malien, dont tout le monde commence un peu à parler. C'est une belle équipe. Mais à mon humble avis, je ne pense pas. Enfin, c'est une belle équipe qui peut être une surprise, mais je pense pas qu'elle ira au bout. Il y a une belle génération qui est mise en place, un bon groupe, un bon collectif, et je pense que faudra compter sur cette équipe du Mali sur les deux ou trois prochaines compétitions. C'est vraiment une belle équipe.
Le Mali qui performe plutôt en compétition de jeunes, on les voit notamment, ils ont été à plusieurs reprises dans les phases finales de Coupe du Monde U20. Grosse formation, gros travail, mais on attend peut-être l'éclosion d'une sélection malienne.
Il y a un truc qui est bien chez les Maliens, c'est qu'il y a du travail de fait quand tu vois... Kanouté qui travaille sur la formation aussi, qui ont des clubs. Il y a des clubs qui recrutent pas mal au Mali, dont Bakary Sanogo qui travaille beaucoup sur le Mali, Serran Diabadé qui travaille beaucoup sur le Mali, et c'est une équipe qui est en construction depuis une dizaine d'années, et là je pense que le travail est en train de porter ses fruits pour le Mali, et je suis content de voir le Mali par rapport à tous ces joueurs qu'on a connus comme Mohamed Sissoko, surtout tu prends Fred Kanouté qui a été un joueur exceptionnel, et au niveau mentalité et au niveau humain qui était extraordinaire,
formé à Lyon mais qui a explosé vraiment
à West Ham
à Séville surtout aussi, hein.
Il a explosé aux yeux du monde à Séville, mais sinon il a explosé avant à West Ham.
Ouais, parce que Pape Diouf, paix à son âme, que j'ai bien connu, qui c'est lui qui l'a fait entre Lyon et West Ham. Et je pense que il n'était pas respecté en France par sa juste valeur, Kanouté, et c'est là qu'il a pris une ampleur de fou à West Ham, et c'est là qu'il a permis d'aller à Séville.
Ouais, il avait un style un peu.
Quand tu vois un Kanouté à Séville, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, ce qu'il a fait dans le football.
Mm-hmm.
Quand je vois aujourd'hui la prolongation de Fekir à Séville, tu vois, ils sont dans leur petit coin, ils font leur petit bonhomme de chemin, et puis avec une mentalité exceptionnelle, et ils viennent de le prolonger. C'est pour ça que je reviens au Mali, que Fred travaille aussi un peu sur les joueurs maliens.
Non, mais c'est vrai que il a raison. Il y a une certaine émergence des joueurs maliens. En première ligue, on parle beaucoup d'Yves Bissouma, qui est je pense que c'est un bon joueur, qui est en train de passer un cap Et très probablement, on aimerait bien le voir dans un club
plus important.
Plus important. Et je pense que il a les capacités. Maintenant, reste à voir s'il va réussir à s'imposer. T'as l'autre joueur, t'as Aïdara, si je dis pas de bêtises, qui joue à Salzbourg. Si à Salzbourg, oui, c'est ça. Donc, t'as cette génération, t'as cette nouvelle génération qui arrive. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et je pense, alors très probablement, je pense que cette compétition-là, s'ils arrivent à atteindre les quarts de finale ou les demi-finales, ce sera comme une victoire. Par contre, lors des prochaines éditions de la CAN, d'ailleurs, qui ont lieu dès l'année prochaine en Côte d'Ivoire, on va attendre un peu plus du Mali et espérer voir aussi cette équipe aboutir avec un titre comme l'Algérie l'a fait en 2019.
Si les garçons, doit y avoir une surprise dans cette CAN, ce serait quelle nation pour vous ?
Une surprise ?
Oui. On a eu la Zambie quand même il y a quelques années.
J'ai vu le Gabon.
Une équipe capable d'aller peut-être au moins en demi-finale, continuer à surprendre.
Je dirais le Gabon parce que j'ai vu malgré qu'il leur manque deux titulaires indiscutables.
Aubameyang, Mario Lemina.
Cet attaquant là qui a mis le deuxième but, qui a vraiment pesé sur la défense marocaine. Et je trouve qu'ils ont des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs et puis ils ont un jeu. J'ai vu par rapport au Maroc, ils avaient du mal le Maroc. Face au Gabon.
Collectivement, ça a été compliqué. Achille, rapidement, une petite surprise.
Pour moi, il n'y aura pas de surprise dans le dernier carré.
Ok, merci Achille, on se retrouve juste après.
Time Foot revient dans un instant. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Foot sur Beurre FM. On embrasse Bilal Nenman ce soir et puis on passe bonjour également à toute l'équipe Time Foot qui nous écoute. Mais en tout cas, moi j'ai deux grosses machines ce soir en la personne d'Achille, de Boula. N'hésitez pas si vous avez envie de réagir au 01 53 48 3000 des matchs qui se déroulent actuellement. C'est le groupe F avec la Gambie, la Tunisie qui pour le moment se départage sur le score de 0-0 et le Mali qui mène face à la Mauritanie sur le score de 1-0 grâce à un but de Aïdara, le joueur du Racing Club de Lens. Allez, on passe à notre invité.
Time Sport, The Special One.
On a l'honneur d'accueillir ce soir monsieur Patrick Boma avec nous en direct sur Time Foot. Bonsoir Patrick.
Bonsoir à tous.
C'est un grand plaisir en tout cas de vous avoir pour la première.
Plaisir est partagé.
Ah, attendez, non mais attendez. Quand on voit Patrick rapidement quand même le palmarès passé bien sûr par le PSG, Châteauroux, Metz, le Japon vous réussit bien plutôt Patrick, sans oublier l'Italie, Cagliari, un peu d'Angleterre. Vous avez pas mal voyagé quand même durant votre carrière, hein.
Oui, j'ai pas mal voyagé. J'avais quand même la chance unique d'être international camerounais et là j'ai pas eu à défendre les couleurs de beaucoup de nations et celle-ci était plutôt conquérante.
Ouais, je rappelle quand même 33 buts en 56 sélections si je me trompe pas. Patrick, c'est pas mal.
Ouais. Oui, on aurait pu mieux faire, mais j'estime que effectivement c'est pas mal.
Ouais,
Achille.
Patrick, sur 52 matchs, quand même, 33 buts, c'est quand même une belle moyenne, quand même.
Ouais, c'est 56, c'est un petit peu moins bien, mais je dis ça, bien entendu. Tout le monde est perceptible, mais je sais que j'aurais pu faire mieux.
Un jeune du 93.
De 9-3, de Bondy, ouais, j'ai grandi à Bondy, de 2 à 17 ans avant de bouger au fur et à mesure jusqu'à me retrouver sur les pelouses des stades de clubs professionnels.
Achille.
Ouais, alors, moi, bonsoir.
Bonsoir.
Plaisir partagé d'être en votre compagnie, parce que c'est quand même une légende du football africain qui a marqué le football africain, notamment avec ses maillots des Lions Indomptables et ce duo d'enfer qui n'a pas duré si longtemps que ça, malheureusement. Et Tom Boma, c'était quelque chose quand même.
Ouais, c'était pas mal.
C'était quelque chose.
C'est pas mal.
Mais moi, j'ai une question à te poser, si je peux me permettre de tutoyer, Patrick.
Sans problème.
Étant originaire de Douala. Pardon?
Ça me rajeunit.
Ah. Alors, étant originaire de Douala, Tu es déjà, je suppose, au même titre que tout le peuple camerounais, est ravi de voir cette CAN organisée et la réussite de celle-ci. Mais étant originaire, j'insiste bien sur le fait que tu sois originaire de Douala, quel est ton ressenti sur l'état de la pelouse dont tout le monde s'indigne? Et quel est ton ressenti par rapport à cela? Et quel est le ressenti sur place, étant donné que tu es là-bas?
Alors, c'est vraiment ce qui compte, c'est d'être sur place. Je pense que ceux qui ont évolué sur la pelouse et qui parlent d'une mauvaise pelouse sont, à mon sens, de mauvaise foi. En ce sens où c'est vrai que c'est pas beau à voir. Elle n'est pas télégénique, la pelouse, je l'avoue. Mais est-ce que vous avez vu pendant le match ce soir, même les autres matchs, une pelouse où il y avait une kyrielle de faux rebonds? Je pense que c'est ça le plus important, c'est de considérer effectivement qu'il y a surtout je suis désolé, j'ai un petit contretemps, donnez-moi 20 secondes.
Avec plaisir, pas de souci.
Je suis en train de faire un direct radio et vous
m'avez... c'est les aléas du direct, hein.
C'est les aléas du direct.
Ça, on est en direct. Ouais. Direct sur la CAN. La CAN avec Patrick Mboma et puis Boula qui est présent avec nous. Et notre grand Le Tollé.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que quand on voit, sa carrière, comme tu l'as dit, Achille, il a surtout marqué quand même le football en sélection. C'est là où il marque les esprits, hein.
Il touche le monde entier, en fait. Il touche le monde entier parce que c'est Puma, c'est le Cameroun qui est une grosse génération à cette époque-là, avec les Rigobert Song, les Raymond Kala, les Bill Chateau, les Marc-Vivien Fauré, il faut bien le préciser. Hein, parce qu'il y avait toute cette génération qui était bien présente et bien représentative, que ce soit en Ligue 1, à l'époque c'était la Division 1. Et puis dans les autres championnats dans lesquels ils ont participé, que ce soit la Serie A, la Première Ligue, même en Espagne. Donc c'est vrai que ça reste quand même un personnage central et très très important.
Ouais, distinction individuelle pour Patrick Mboma, meilleur joueur africain de l'année en 2000, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 avec 3 buts et en 2004 avec 4 buts, et meilleur buteur du championnat japonais, donc en 97 avec 25 buts, c'était avec le club de Gamba Osaka. Boula, tu le connais un petit peu, toi, quel souvenir tu gardes de sa carrière?
Déjà, en termes de footballeur, c'est un joueur qui nous a impressionnés. Et ce qui est bien dans Patrick, c'est quelqu'un au niveau image. On n'a jamais entendu quoi que ce soit sur lui. C'est tout à fait le joueur avec plein de règles, plein de valeurs, quelqu'un de très éduqué. Et ce qui est bien, c'est qu'on jamais on entend dans sa vie privée ou dans ses... On a toujours entendu du bien. Et c'est quand je vois tous les clubs qu'il a fait, je pense qu'il a toujours donné la bonne image du footballeur. Et après, quand je vois ce qu'il a fait en Italie aussi, parce que à l'époque, il y avait les meilleurs défenseurs au monde. Dans le championnat, il avait les meilleurs défenseurs au monde en Italie. Et il s'est un peu aussi imposé en Italie.
Ouais, passé par Cagliari, 98-2000, et à Parme, ouais. 2000-2002.
Tout à fait.
Ça. Mais on parle beaucoup de Patrick, mais c'est une famille de footballeurs. C'est une vraie famille de footballeurs avec son frère Alain
ouais.
Et qui est entraîneur. Et d'ailleurs, malheureusement, qui a jamais été plus haut. Pourtant, il a des réelles compétences, des réelles qualités. Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de clubs en Île-de-France.
Surtout Villemomble.
Ouais, surtout Villemomble.
Un petit club comme Villemomble qui n'avait pas les moyens, où ils sont montés en national.
Ouais.
Et après, il ne faut pas oublier que le dernier club qu'il fait, le dernier bon club qu'il a fait, ou que c'est le Restart, il a fini deuxième. Et on ne lui a pas donné cette chance
d'aller plus haut.
Voilà, d'aller plus haut. Et en plus de ça, il fait partie, Alain, des meilleurs entraîneurs. Des meilleurs entraîneurs de la région parisienne avec Nasser Sanjak, parce que c'est des mecs quand même qui ont marqué le football dans le 93 et peu de moyens qu'il avait, il arrivait toujours à construire une équipe, il arrivait toujours à sortir des joueurs, et il a sorti pas mal de joueurs, Alain. Ouais. Et c'est quand même des gens qui sont très très proches de la famille Mbappé.
Peut-être qu'il est revenu, non?
Non, non, il nous dira, Yanis, de toute manière. Oui, okay, donc tu disais, Boulard.
Je dis, ils sont très très proches de la famille Mbappé.
Mais justement.
Comme Wilfried, il est camerounais, et puis.
En fait, ils sont tous issus de Bondy.
En plus de ça, ils sont nés dans la même ville.
Bah voilà, donc.
Ils sont nés dans la même ville et.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, après, par rapport à ça. Justement, j'avais une question à lui poser par rapport à Bondy. Et donc j'avais une question à lui poser par rapport à Bondy. Il est de retour, c'est ça?
Oui. Je suis de retour.
Mon petit Patrick. C'est Boula, Patrick.
Oui, salut Boula. J'ai entendu ce que tu as dit. C'est très gentil.
C'est très gentil. C'est toi qui as été gentil avec nous. Au niveau de l'image et ce que tu représentes dans la région parisienne, toi et ton frère, vous êtes quand même des gens exceptionnels. Et puis... tu nous l'as rendu sur le terrain parce qu'on aime le foot et comme je disais, ce que tu as fait en Italie, à l'époque, il y avait les meilleurs défenseurs au monde en Italie.
J'ai entendu tout ça, mais ouais. C'est pour tout ça que je dis merci.
D'accord. Okay. Mais pour en revenir à la question, parce que t'étais en train donc d'exprimer
sur les pelouses.
Quand on
la
voit
pelouse
en fait,
de Douala.
Le décalage qu'il y a entre Douala et Yaoundé ou même à Japoma. Il y a quand même il faut quand même le préciser parce qu'on ne le dit pas assez, mais les conditions climatiques de Douala ne favorisent pas effectivement le fait d'avoir une belle pelouse comme tu pourrais potentiellement en avoir une comme un Japama. Vrai ? Il est là ?
Moi, ce que je tiens à dire, c'est que on a parlé de cette pelouse. Mm-hmm. J'ai commenté le match, donc j'ai regardé de près. Le problème, notamment des rebonds.
Oui.
Il n'y a pas eu de mauvais rebonds. Donc, de quoi on se plaint? Quand on parle de mauvaise pelouse, c'est ça. On n'arrive pas à évoluer, à faire des passes. On ne peut pas être tranquille quand on fait contrôle centre, contrôle frappe. On n'a pas vu tout ça. D'accord, la pelouse n'est pas, c'est des génies. C'est pas très beau à voir. À la télé, je suis complètement d'accord, mais la pelouse n'est pas dans un état catastrophique. Il faut savoir de quoi on parle. Je veux dire, on peut, comme si quelqu'un arrivait avec des maillots pleins de boue, donc on dit que c'est pas un bon joueur. Non, il faut voir ce qu'il produit et pas si c'est beau à voir.
Non, mais c'est bien de le préciser. Voilà, c'est bien de le préciser, Patrick, parce que t'es sur place.
C'est le Camerounais né à Douala qui parle, d'accord. Mais c'est quand même le sportif. Moi, j'ai vu des très belles pelouses, mais une fois qu'on jouait dessus, on se disait, mais c'était du bluff, cette pelouse. Ouais. Alors là, c'est pas la plus belle pelouse des six stades qu'on a donné pour cette compétition. Mm-hmm. Mais il faut arrêter de chercher l'excuse de la pelouse. Mm-hmm. Et regardons encore le match et dites-moi à quel moment le ballon rebondit et qu'un joueur n'arrive pas à contrôler le ballon.
Non, non, c'est vrai, mais c'est bien d'avoir cet avis de quelqu'un qui est sur place et qui voit, et de surcroît, c'est pas n'importe qui, sportif et ex-international, donc il y a un avis plutôt objectif.
Je les ai connus, les mauvaises pelouses sur le continent, et même nous-mêmes à Yaoundé, quand on recevait, c'était notre premier adversaire, notre propre pelouse. Mais là, aujourd'hui, j'insiste. Je ne dis pas que c'est une belle pelouse à voir, mmh. Mais ça n'empêche pas un jeu de qualité.
En tout cas, en parlant de la pelouse, on parle aujourd'hui de la pelouse du le Cameroun. On sait très bien que les terrains en Afrique, on met toujours en question les terrains en Afrique. Tu le sais très bien, tu as été international, tu sais très bien que...
Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas se contenter de la médiocrité. Il faut le faire. Il faut critiquer les stades, il faut imposer. Moi, j'ai vu de superbes réalisations depuis que met un peu la pression à toutes ces fédérations avec tous ces matchs reportés dans d'autres pays parce que on peut pas offrir un stade décent et c'est une très bonne chose. Parlons bien. J'ai reçu les images du stade d'Oran et il est juste magnifique. Il faut inciter les fédérations et les pays, parce que ce sont quand même eux qui investissent, à faire ces efforts-là. Le Cameroun a fait des efforts considérables, construit des stades, réhabilité d'autres. Ce sont des efforts qui sont importants et qui sont à la hauteur du pays, en sens, dans ce sens où il est reconnu comme un grand pays de football, mais les infrastructures étaient désuètes ici. Donc c'est déjà beaucoup mieux. On doit dire bravo à la CAF pour avoir un peu mis des coups de pied au derrière à tout le monde pour faire des efforts. Et je les vois tout le temps, des efforts dans de nombreux pays sur le continent. On fait des efforts et arrêtons de croire que à l'échelle d'un pays, quand bien même on parlera des Comores ou de je ne sais qui, on n'est pas capable de construire un stade décent aujourd'hui.
Mais tu vois, Alain, c'est bien que tu dis ça. Moi, quand je vois l'arrivée d'Eto'o en tant que président, je dis enfin quand même des gens comme toi ou des gens comme Eto'o qui font partie vraiment de la famille du football, même que vous avez tout fait en Europe et vous avez vu ce que c'était des pelouses. Moi, je pense que avec des gens comme toi ou des gens comme Eto'o, ce qui est bien, c'est que on va retrouver vraiment des vrais terrains, des vrais, tu sais, dans toute l'Afrique. Et si on pouvait,
Eto'o suscite un grand espoir. Et moi, je suis convaincu que de par son amour pour le football, son amour pour le pays, mais sa connaissance du football et des besoins des footballeurs, il saura faire attention à toutes ces choses-là. Alors, bien entendu, l'important, ce sont déjà les compétitions. Mais les compétitions, elles doivent se jouer sur des aires de jeu décentes. Le Cameroun a des infrastructures qui doivent l'amener aujourd'hui à revoir l'organisation de ces championnats. Et une émulation sera trouvée grâce au président Eto'o. Ça, j'en suis persuadé. J'espère ne pas me tromper.
On a un auditeur qui est avec nous également, c'est Nagui de Paris. Bonsoir Nagui. Nagui ?
Oui, allô ?
Oui, bonsoir Nagui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, alors vous avez une question pour Patrick Mboma, notre invité ce soir.
C'est ça, déjà dans un premier temps, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qu'il a pensé justement de la performance déjà de la Côte d'Ivoire. Et surtout de la performance du latéral gauche de la Côte d'Ivoire, Raymond, que j'ai trouvé très très fort.
La performance de la Côte d'Ivoire, elle est XXL. On pourra toujours chercher à dire que l'Algérie n'a pas été à la hauteur, mais c'est surtout pour moi la Côte d'Ivoire qui a réussi son match. Le match est plein, il est quasiment parfait. Il y a eu des petites erreurs qui ont coûté notamment le but où ça manquait d'attention sur les coups de pied arrêtés, ça sera pour eux à rectifier, pour les autres à exploiter. Et puis c'est vrai que Conan sur le côté gauche dès le début du match, hein, même si il n'a pas tout réussi, a montré avec Ferroche toute la volonté, toute la détermination et la qualité qu'il avait. Maintenant, il a été un parmi tous ces joueurs qui ont vraiment fait une très belle partie.
D'accord, très bien.
Ça vous satisfait, Nagui ?
J'ai vu aussi, j'avais l'impression que justement physiquement les Ivoiriens justement ils étaient beaucoup plus préparés et que j'ai trouvé les Algériens justement assez fatigués. Plus on avançait dans le match, plus ils étaient vraiment fatigués. Je trouvais que la Côte d'Ivoire justement physiquement était clairement au-dessus, avec un caissier justement qui gérait le tempo. Je trouve qu'il monte vraiment en puissance. Hein,
merci Nagui.
Très bien. Je vous remercie à vous et je vous souhaite une excellente soirée.
Ok, merci Nagui.
Merci Nagui.
Alors, on revient. Oui, Achille, tu as vu une question.
Une autre question. Patrick, il est toujours là avec nous. Hein.
Oui, bien sûr. Voilà.
Je veux juste revenir et faire une petite sortie de piste un petit peu, sortir un petit peu de cette canne. Étant donné que t'es, on le sait un petit peu, tu es originaire donc de Bondy, et on sait que t'es proche de la famille Mbappé, comme toi et au même titre que ton frère Alain.
C'est est-ce mon que frère tu... qui est vraiment proche.
Ouais. Alors, mais est-ce j'écoute. Que tu, ouais. Ok, d'accord.
J'écoute ta question.
Ok, est-ce que tu pourrais confirmer qu'il y a eu une offre qui a été transmise d'un contrat de 2 ans avec un pourcentage concernant les parts du club du Paris Saint-Germain qui auraient été offertes à Kylian Mbappé?
Alors là, Déjà, je le répète, je ne suis pas aussi proche que ça. Mon frère, lui, est très proche, mais justement, on ne parle pas de ça comme ça. Ça évite toutes les problématiques. D'autant plus que je travaille pour un média important qui est Canal+. Donc, je pourrais avoir des infos et j'aurais la tentation peut-être de les divulguer, même si me connaissant, je ne ferai pas. Et l'offre m'a l'air à la limite rocambolesque. Mais en tout cas, je veux bien croire que le Paris Saint-Germain veuille tout faire pour le retenir. Ça, c'est une évidence. Mais réellement, je suis incapable de parler d'une offre qui a été faite ou reçue par la famille.
Alors, vraiment. Patrick, on va revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun. Cette sélection des Lions Indomptables, comment la jugez-vous pour le moment?
Suffisamment bonne pour en être satisfait de la façon de laquelle était extirpé du piège du premier tour. Je parle de piège parce que à domicile il y a nécessairement une pression. Alors elle est positive quand les choses se passent bien et on le voit, mais elle aurait pu inhiber les joueurs. Ils ont marqué beaucoup de buts, notamment Vincent Aboubakar. Reconnaissons que 5 buts au premier tour, ça me fait penser aux 10 buts de Haller en Champions League.
Ouais.
Et surtout qu'aucun attaquant camerounais, je dis bien aucun attaquant camerounais autre que Samuel Eto'o n'a réalisé cela.
Pourtant, il y en a eu des attaquants camerounais, hein.
Ouais. Et pourtant, il y en a eu. Donc, c'est très bien individuellement. Ensuite, l'état d'esprit est juste parfait. Il y a effectivement des petits manquements en termes de qualité sur certains postes dans certains matchs. On a senti que c'était imparfait. C'est pas parfait, mais je pense que cette formation qui n'a pas eu le cas d'autre, hein, de matchs de préparation, progresse petit à petit. Et donc, pour anticiper d'éventuelles questions, je vois le Cameroun comme étant capable, mais ce n'est pas la seule formation ainsi, d'aller jusqu'au bout.
Ouais, je rappelle le Cameroun, 5 fois vainqueur de la CAN, 84, 88, 2000, 2002, vous y étiez, Patrick, et 2017. Ouais. Boulard.
Patrick, moi je voulais te poser une question qui est Aïssa Ayatou, aujourd'hui, le fait que Eto'o est-ce qu'il est toujours dans le rayon du football, est-ce que il vient voir l'équipe, Aïssa Ayatou?
Issa Ayatou a un rôle de, me semble-t-il, président d'honneur de la fédération. Je crois qu'il a un rôle qui lui a été donné par le gouvernement, même s'il est plus symbolique qu'effectif. Charge à lui ensuite, qui est camerounais et qui est revenu du côté du Nord Cameroun de se manifester, je dirais des choses tout simplement comme ça. Une Coupe d'Afrique des Nations, je m'attendais à ce qu'on nous le montre dans les tribunes. Je ne l'ai pas vu, mais c'est un personnage respecté du.
Ouais, c'est pour ça que je te pose des questions.
Notamment pour.
Ouais, c'est pour ça que je te pose des questions. Quand même, il était membre de la FIFA.
Ouais, merci Patrick. Le tonton, c'était un plaisir en tout cas de vous avoir pour la première fois sur Time Foot. Vous serez, j'imagine, au stade pour Cameroun Comores, 24 janvier 20h.
Je connais pas encore l'attribution des matchs, mais en tout cas mon cœur lui vitera.
Ouais, voilà, ça sera les Comores pour le Cameroun. Hein, l'élimination de l'Algérie a permis donc aux Comores d'accéder au 8e de finale. Voilà, vous avez l'information grâce à Time Foot. Merci beaucoup, Patrick.
Bon courage à la famille, un bon moment.
Bientôt. Une bise à Boula et aux auditeurs de Beurre FM.
Merci infiniment, Patrick. Merci.
Un honneur de te recevoir à Beurre FM.
Time Foot revient dans un instant. 20h, 21h. 20h, 21h. Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la troisième partie de Time Foot sur Beurre FM avec mes consultants ce soir, Achille et Boula, sans oublier Yanis et sa coupe de cheveux. Voilà, on aimerait tous avoir la même. Allez, on passe à la suite.
Time Sport. Le duel.
J'ai déjà anticipé. Il y avait un match attendu en fin de journée entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie et qui a vu, messieurs, dames, auditeurs, l'élimination des Algériens sur le score de 3-1 grâce à des buts de Kessié, Sangaré et Pépé pour les Ivoiriens contre un but de Bendebka. Sachant que Mahrez a loupé un penalty, l'Algérie, tenant du titre de la compétition, est éliminée. C'est un coup de tonnerre.
Coup de tonnerre, oui et non. Coup de tonnerre, oui, parce que c'est champion. C'est le champion en titre. Après, quand on voit un petit peu, malheureusement, il y a cette malédiction qui entoure toutes les sélections, qui enchaîne en règle générale 2 ou 3 titres successifs, et derrière, généralement, ça casse. Ça casse pas parce que l'équipe n'est pas bonne, parce que dans le jeu ne sont pas bons, mais ça casse pour d'autres facteurs. On va avoir des adversaires qui vont être dans des états de grâce, on va avoir de la malchance, des poteaux, des faits de jeu, et c'est cette gestion-là qui a fait que, à mon humble avis, ça a coincé un petit peu du côté des Fenech. Et la vraie question, elle était là. C'était, est-ce que Jamel Belmadi était en mesure de pouvoir remobiliser tout le groupe pour pouvoir continuer comme ils ont pu le faire en 2019. Mais malheureusement, il y a eu trop d'individualisme dans cette équipe, dans le sens où chacun a voulu prendre et tirer son épingle du jeu en disant « je suis le sauveur de la nation ». Et malheureusement, c'est ce qui a fait défaut, je pense, à cette équipe, qui n'a pas vraiment joué en équipe, mais qui a plutôt tenté de se la jouer seul, quoi, en fait.
Ouais, dans l'autre match du groupe, c'est la Guinée équatoriale qui s'impose face à la Sierra Leone sur le score d'1-0 grâce à Pablo Ganay. Honnêtement, les amis, lorsque l'on voit le groupe au départ, avec la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, on se pose pas de questions. Boula, on se dit que l'Algérie va, enfin, y a pas de sujet.
C'est sûr que quand tu vois les équipes, tu te dis, tiens, même si tu termines pas premier, tu termines deuxième. Mais le football, c'est...
Ou même troisième, hein, parce que vu qu'il y a 24 équipes maintenant, tu peux terminer meilleur troisième.
Oui, mais quand tu vois la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, à Chine, honnêtement, on se dit au départ qu'il y a...
Ben, c'est la magie de la CAN, il faut le dire. Voilà, c'est que on a toujours cet a priori de dire que voilà, les grosses nations, elles sont là, il y a des petites nations. Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football africain est en train de grandir, et grandit très bien. Et comme on peut le voir avec la formidable épopée d'Hervé Renard et le Zimbabwe. Oui, ça, le Zimbabwe.
La Zambie. En 2012.
En 2012, voilà. Ce n'est qu'un exemple qui prouve que le football africain est en train de grandir, qu'il n'y a plus vraiment de petites nations et que maintenant tout le monde se regarde les yeux dans les yeux, quoi.
Mmh. Et après, faut pas oublier, c'est que les Africains, ils travaillent.
Ben oui,
il y a des équipes nationales qui sont toujours dans la réflexion à travailler, à structurer, à organiser. Le problème des terrains, le problème de ceci, tout le monde a retrouvé des terrains, quand tu regardes, nous, la défaite d'équipe nationale, on est, moi, personnellement, en tant qu'Algérien, je suis obligé d'accepter cette élimination parce que tu te fais éliminer, certes, mais il y a des joueurs, à un moment donné, tu sens que physiquement et psychologiquement, ils y sont plus du tout. Ça, je pense que, tu sais, quand tu arrives en Coupe d'Afrique et quand tu vois 3-4 joueurs qui y sont pas, tu te dis, bon, en plus de ça, tu sors d'une Coupe arabe et tu la gagnes, avec pas mal de titulaires, sauf ceux qui jouent en Europe. Tu gagnes la Coupe arabe et tu t'arrêtes sur tu t'élances et tu crois que tu te dis tiens ça va être facile, bah finalement ça a été compliqué, ça a été dur. Ce qui veut dire par là, c'est que les joueurs européens, parce qu'on faut pas à un moment donné mettre des trucs sur les locaux, dire que les joueurs européens ils ont pas même eux ils étaient dans les abonnés absents. On peut dire ce qu'on veut et après t'as des joueurs qui jouent au Qatar que physiquement ils ont plus le côté compète.
ils ont plus le côté compète. Et l'équipe nationale reste sur 4 ans, pas de défaite.
Ouais, 3 ans, ouais.
Ouais,
ouais,
ils sont, ouais, ils sont 35 c'est... matchs sans défaite. Mmh. Et oh, tu prends quelqu'un comme Jamel, quand je
performance
vois,
exceptionnelle hein, non, de la sélection algérienne.
Quand je vois que quand je vois des joueurs comme Belali qui ont été sanctionnés, qui a réussi à les remettre dans le bain, cadrer certains joueurs de chez nous, c'est un travail de fou. Quand je vois un mec comme Vahid qui dit à Ziyech non il vient pas, il est pas là pour faire de la psychologie. Tu sens qu'il est là pour avoir une équipe. Il veut des guerriers, il veut des mecs qui l'écoutent au doigt et à l'œil. Bah, Jamel, à un moment donné, dans la qualité de certains joueurs, moi quand je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, bah, Aurier, il est encore là. Aurier qui fait partie quand même des figures de la Côte d'Ivoire parce que ça a été quand même un joueur du PSG qui a été exceptionnel comme joueur. Et quand je vois leur victoire, elle est pas déméritée. On peut pas. Quand je vois même certains joueurs de la Côte d'Ivoire qui jouent en Europe, tu sens que c'est des joueurs quand même, aujourd'hui, ils étaient prêts.
Le milieu de terrain, par exemple, d'aujourd'hui à Chine, avant de donner la parole, Sangaré, qu'on connaît bien, passé par Toulouse, Jean-Michel Seri, Franck Caissier, et les trois de devant, Pépé, Gradel, Sébastien Allaire. Donc, est-ce que l'Algérie a à rougir défaite?
Je pense pas qu'il y a... Enfin, si, il faut rougir. Une défaite, c'est une défaite. Je suis désolé que tu perdes un 0, enfin tu peux perdre dans tous les cas que tu perds un 0, 5-0, c'est une défaite. Donc bien sûr, j'espère et c'est ce qu'on attend tous, un regain de forme parce que ce qui a peut-être manqué et c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres compétitions. Là tu as parlé Claude du milieu de terrain ivoirien, mais il y a un joueur dont personne ne parle aujourd'hui, c'est l'absence de Guedouira qui n'est plus là. Et c'est-à-dire il a été la clé de voûte de cette équipe en 2019, il y avait la possibilité de faire jouer Mehdi Tarart en remplacement dans un système de jeu avec une pointe basse. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a préféré jouer avec des joueurs beaucoup plus créatifs et c'est peut-être là l'erreur. Néanmoins, je pense que Jamel a les armes et va remobiliser tout son groupe pour l'objectif du mois de mars qui sera de se qualifier pour le Qatar au mois de novembre et par la suite espérer rendre fier le peuple africain.
En tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour les huitièmes et qui affrontera l'Égypte. Ça sera le 26 janvier à 17h, la toute dernière partie.
Time Sport, le mode pressing.
Mode pressing pour terminer. Une équipe impressionne ou du moins impressionnée lors de ce premier tour, les amis, c'est les Super Eagles. On en a pas trop parlé, mais le Nigeria est toujours là.
Toujours là, et d'ailleurs assez surprenant parce que ils ont viré quand même leur sélectionneur.
À quelques semaines.
Un mois, voilà, un mois avant le début de la compétition. Et force est de constater que ça a pas du tout perturbé le groupe. Et malgré même certains joueurs qui étaient appelés en sélection, dont les clubs ont refusé la venue, je fais allusion à un joueur de Watford, pour ne pas citer son nom, hein, d'ailleurs justement, c'est une sélection qui travaille sereinement. Il n'y a pas de pression, on a l'impression.
Et ça joue au ballon,
ça joue au ballon. Et attention, quand on voit le 11 sur le papier, on dit ouf. Quand tu vois, tu as des Iheanacho, tu as des Wilfried Ndidi, tu as quand même des joueurs qui sont quand même des Alfred Musa,
Iwobi.
Iwobi.
Il y a du monde.
Très costaud.
De très bons joueurs de football.
Je n'oublie pas aussi un joueur que j'affectionne tout particulièrement, Chukwueze, aussi qui joue du côté de Villarreal. En fait, il y a un collectif qui est présent dans ce 11, et quand tu vois les remplaçants qu'il y a, tu te dis, waouh, c'est costaud, quoi. Tu te coltines déjà une grosse équipe qui a cette expérience-là du très haut niveau avec la Première Ligue, qui a eu la chance de pouvoir produire du beau jeu, sur des terrains relativement convenables, qui correspondaient bien aux caractéristiques de cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que le Nigeria, à mon humble avis, si c'est pas le Nigeria, ce sera le Cameroun qui remportera donc cette CAN.
Finale Cameroun-Nigeria pour toi?
J'espère pas, mais pour moi, il y a une des deux équipes.
Je vais te dire rapidement au niveau du tableau, et ben c'est possible, Achille. C'est possible, Cameroun-Nigeria. Ce serait pas mal quand même.
Le vainqueur de cette CAN sera dans l'une des deux.
Je rappelle, Nigeria, trois fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, 80-94-2013. Boula pour terminer.
Achille, il a raison un petit peu par rapport aux joueurs de qualité du Nigeria. C'est vrai, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un pays de football. Ça a toujours été un pays de football.
Ouais. Depuis 1994, qui participe quasiment à toutes les Coupes du Monde.
On a eu Gégé Okocha qui était à.
Ouais, au PSG,
Taribo West, Taïo qui était à Marseille.
Salomon Lembe.
Voilà.
Et Chancel Camerounais. Non, mais Georges Finidi, il y a eu Sandé au lycée, il y a une grosse génération.
Tu sens que c'est un pays qui travaille au niveau de la formation, au niveau des jeunes. Et ce qui est bien, c'est que ça porte ses fruits en sélection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu les vois toujours, ils ont une armada de qualité de joueurs, c'est que quelque part, ils ont travaillé, ils ont bossé.
Le Nigeria qu'on attend de voir, on ne connaît pas encore l'adversaire des Super Eagles, pardon, huitième de finale. Deux matchs se jouent actuellement dans le groupe F. Gambie-Tunisie 0-0, Mali-Mauritanie 1-0 grâce à un but d'Aïdara. Tout reste encore ouvert dans ces deux rencontres. Merci de nous avoir écoutés. Merci à mes consultants Achille et Boula. Merci à Yanis à la réalisation et sa coupe de cheveux exceptionnelle. Restez connectés sur Beurre FM. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.